À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Thomas Merton. C'est un des hommes les plus remarquables de ce siècle. Thomas Merton, un homme né dans plutôt l'incroyance, il n'avait pas reçu de formation religieuse, et qui petit à petit, à travers sa recherche et ses angoisses, a trouvé la voie qui l'a mené à des sommets. Il est entré à la trappe, devenu trappiste jeune, oui, et est devenu le trappiste le plus connu de ce siècle, le moine peut-être le plus connu de ce siècle, auteur de très nombreux livres, dont un que probablement une très grande partie d'entre vous avait lu, La nuit privée d'étoiles, en anglais de Seven Story Mountain, qui est paru dans les années 50, et il a publié aussi Semences de contemplation que beaucoup de gens ont lu. Mais il a écrit énormément d'autres volumes, les derniers qui sont parus l'an dernier, en particulier Les voies de la vraie prière, dans la collection Foi vivante. C'est un ouvrage remarquable qu'il a écrit peu de temps avant sa mort. Il a mis noir sur blanc ce qui lui paraît l'essentiel de la vie de prière. C'est un petit livre paru aux éditions du Cerf, c'est à peine 100 quelques pages. Remarquable petit livre paru donc en 97, Les voies de la prière. Puis il y a aussi le fameux Prier 15 jours avec Thomas Merton par Don André Gauzier, qui est un bénédictin de Paris, de l'abbaye de la Source, à Paris, de la rue de la Source, dans le 16e arrondissement. C'est un livre qui nous permet de prier avec lui à travers ses œuvres. Il y a aussi un livre très récent, en 95, Mystique et Zen, car il s'est intéressé beaucoup à la pensée orientale durant les dernières années, et il est mort à Bangkok, justement, lors d'une réunion de moines en Orient. Les ouvrages de Thomas Merton, ce trappiste du monastère de Notre-Dame de Gethsemane, ou comme on dit en américain, Gethsemane, dans le Kentucky, ont rencontré durant des années des succès extraordinaires. Je vous ai parlé de La nuit privée d'étoiles. Eh bien, il y a un moment, ils étaient rendus à 600 000 exemplaires aux États-Unis. C'était un best-seller qui a été best-seller. Il a eu des best-sellers comme ça pendant des années et des années. C'est extraordinaire ce que les gens aimaient sa façon de parler des choses spirituelles. Mais qui donc est cet écrivain converti au catholicisme, décédé tragiquement à Bangkok en 1968 à 53 ans? Eh bien, son père, Owen Merton, était un peintre et un musicien. Ils sont une famille d'artistes. Il venait de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Puis il aimait bien parler plus tard à son fils qui est né, lui, en France. Oui, Thomas Merton est né en France. Il aimait bien parler des montagnes de la Nouvelle-Zélande, des fermes de moutons. Hein, les moutons de la Nouvelle-Zélande, c'est réputé. Les forêts aussi, où il avait vécu là-bas. Puis dans son vagabondage à Paris, M. Owen Merton a rencontré une Américaine qui était très douée, sensible, délicate, puis avide de perfection, heureusement. Puis il l'a épousée. Et c'est le 31 janvier 1915 que Thomas Merton est né, leur premier fils, qui est né à Prades, dans les Pyrénées, tout près de l'Espagne, où il y avait ce monastère Saint-Michel de Cuxa, qui existe toujours, je crois. Ses parents s'étaient réfugiés là pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est là qu'à Prades va vivre, si vous aimez le violoncelle, le fameux Pablo Casals, qui était réfugié de l'Espagne. Le jeune ménage des Merton, donc, tombe dans la pauvreté. Mais d'autre part, les grands-parents maternels réclament leurs enfants, et voilà pourquoi, vers 1916, en pleine guerre, c'est l'exode vers les États-Unis, une installation à Flushing, à Long Island, si vous voulez, où la famille Merton vit de peinture, puis de jardinage, de bien peu de choses. Là, il y a un second fils qui arrive, John Paul, qui naît 3 ans après Thomas, en 1918. Il écrit, Thomas Merton, « Il semble étrange que mon père et ma mère, qui veillaient scrupuleusement sur l'honnêteté de nos pensées, et n'auraient jamais permis qu'elles soient contaminées par l'erreur et la médiocrité, ne nous ont donné aucune formation religieuse. Toute religion organisée semblait à ma mère, qui était pourtant quaker, en dessous du niveau de la perfection intellectuelle. Nous n'allions jamais à l'église de Flushing. Jamais à l'église. C'est sa grand-mère paternelle, qui est venue des Antipodes de Nouvelle-Zélande visiter ses enfants, qui enseigne finalement le Notre Père au petit Thomas. Il écrit « Je ne l'oubliais jamais, le Notre Père. Mais j'ai passé des années sans le dire. » Et Thomas Merton, qui est très doué, était pris de géographie, de mythologie grecque. C'est intéressant, la mythologie grecque. Avez-vous déjà étudié ça? C'est fascinant. Mais c'est compliqué un peu. Et puis, Thomas Merton, c'est un indépendant aussi. On peut dire qu'il y a de grandes disponibilités pour le bien, mais aussi peut-être pour le mal. Il n'a que 6 ans lorsque sa pauvre mère meurt du cancer. Oh, il a raconté ça à la mort de sa mère. Sa réduction en cendres. Il n'y a plus personne. Il est bouleversé. Et sa douleur, à 6 ans, on peut dire que c'est celle d'un adulte. Mais il ne prie pas pour sa mère, évidemment, ce n'est que 20 ans plus tard, converti, qu'il priera pour elle. Donc John Paul et Thomas Merton, orphelins de mère, sont recueillis par leurs grands-parents. Tandis que leur père, Owen, il voyage en France puis en Afrique. Il acquiert une certaine notoriété comme peintre. Toutes les religions sont bonnes, dit-on. Mais chez le grand-père, on haïssait le catholicisme, c'est donc une maladie psychologique très répandue. Hein? J'entendais Pierre Gauvreau parler du christianisme avec une telle rage à la télévision, dans les journaux, que je peux mentionner son nom. Hein? Grand artiste, grand auteur d'émissions de télévision que je connais bien. Cette colère que ces gens-là ont, c'est surprenant. Hein? Mais voilà de toute façon que Thomas Merton retourne en France. Et Thomas, enfant, aborde Calais par un jour pluvieux de septembre 1925. Il a 10 ans. À Orléans, son père lui parle de Jeanne d'Arc. Il pense à elle avec admiration. Petit éveil. Alors on s'installe à Saint-Antonin, en Aveyron. C'est une vieille ville romaine, petite ville, bâtie en château fort. Vous savez, c'est cité médiévale. Et Thomas Merton va en garder un souvenir exquis. Pourquoi? Parce qu'au centre se dresse l'église. Il écrit « Ici, partout où j'allais, par la disposition de toutes les choses, j'étais au moins virtuellement conscient de l'église. Cette église était établie dans le paysage de telle façon qu'elle est devenue la clé de voûte de mon intelligibilité. Ceci est le sens de toute chose créée, proclamer la gloire de Dieu. Or, vivre en un lieu construit de telle manière que vous êtes forcé, malgré vous, d'être un contemplatif, où vos yeux, tout le long du jour, se tournent vers la maison qui garde le Christ sacrement. Oh, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était le Christ, qu'il était Dieu, qu'il existait une chose pareille au Saint-Sacrement. Cependant, je vous déclare qu'il y a une puissance qui émane de ce sacrement, une puissance de lumière et de vérité, qui pénètre même les cœurs de ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui et semblent incapables de croire. Vous voyez de quelle façon il écrit de façon magistrale. C'est absolument superbe, c'est constamment comme ça pendant des dizaines de livres. Pardon, cet enfant de 10 ans se met donc à voyager avec son père qui cherche des modèles de tableaux et qui visite ainsi de vieilles églises, d'anciennes chapelles de monastères. Pardon, Thomas Merton, qui est plutôt sensible, apprend bien le français. Il aime spontanément les cathédrales et les abbayes. Malheureusement, il est envoyé à 11 ans et demi au lycée de Montauban, toujours en France. Hein, et il ne voit pas ses compagnons catholiques vivre leur catholicisme. Mais heureusement, il voit un ministre protestant, puis il reçoit de lui les rudiments de l'enseignement religieux. En pleine France catholique, c'est un ministre protestant qui lui l'initie au christianisme. Une autre influence à laquelle Merton se réfère avec une reconnaissance profonde, c'est celle d'un couple de catholiques authentiques, chez lesquels, tout jeune collégien de 12 ans, il passe ses vacances. Il écrit « Ils étaient saints », tout en menant une vie ordinaire d'une manière complètement surnaturelle, par l'union habituelle de leurs âmes avec Dieu, en profonde foi et charité. Dieu seul sait ce que je dois à ces admirables personnes. Alors Thomas Merton a bien de la peine quand il doit quitter Saint-Antonin et la petite maison que son père a fait bâtir sur la côte, là. Sa destinée d'artiste itinérant conduit donc Owen Merton en Angleterre. On est en 1928. Tandis que le peintre, le père, voyage, Thomas Merton demeure à Ealing. Vous connaissez ça, Ealing, une belle cathédrale, E-A-L-I-N-G, chez sa tante Maud, qui est une jolie dame aux belles manières victoriennes, et son instruction se continue. Et l'anglicanisme devient sa religion. Il étudie le latin, le grec et la philosophie. Il est pris d'encouement pour William Blake, Spinoza, Hopkins, T.S. Eliot. C'est de bons auteurs, heureusement. Même Spinoza, quoi. Mais oui, si sa culture s'étend, son âme d'adolescent demeure fermée aux choses divines. Pourtant, il lit des ouvrages à contenu religieux. Et deux ans plus tard, Owen Merton, son père, meurt d'une tumeur au cerveau en 1930. Thomas, seulement 15 ans. Il aimait profondément son père. C'était son meilleur ami. Il l'admirait. Il le respectait. Il est très tôt affecté par cette mort. Il est orphelin. Tom reste donc seul et complètement indépendant. Son grand-père l'appelle en Amérique, heureusement. Alors, pendant la traversée de 10 jours, il y a une crise toute particulière qui frappe le jeune orphelin, avide d'affection. Pourquoi? Ah, les amours d'adolescents. Il tombe éperdument amoureux d'une jeune passagère. Et il écrit à ce sujet, c'est tellement vrai, « Je préférerais passer 2 années à l'hôpital plutôt que de recommencer ce tourment, cet amour dévorant, émotionnel, à 15 ans, passionné, qui consume l'adolescent jour et nuit, écrit-il. » Après cette pénible expérience et durant ce même été, il se croit devenu communiste, sans mieux savoir à quoi ça l'engage. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bien, en rentrant à Oakham, il a un air supérieur de grand révolté. Les rayonnages de sa chambre abondent alors de livres enflammés, et parmi ceux-ci, le manifeste communiste de Marx, que m'a donné au même âge le fameux Michel Roy qui dirigeait le Devoir. Nous étions bien amis, il m'avait donné une manifeste communiste de Marx. Il fallait que je lise ça, c'est la mode. Et lui, Merton, il trouve que ça fait bien dans le décor. C'est un peu comme ça pour Michel Roy, j'imagine. Et comme son père, Thomas Merton aime les voyages. Il retourne en Angleterre. Et en 1931, à 16 ans, il réussit quelques examens à l'université de Cambridge. Et un mois plus tard, il se met en route pour l'Italie. Et c'est là que Dieu l'attend. À Rome, sa première enquête le porte vers les musées, les librairies, la Rome antique. Fils d'artiste et artiste lui-même, au fond, il s'étonne de préférer les vieilles églises aux temples en ruines. C'est tellement plus beau, les vieilles églises. Il s'intéresse à une Rome différente. Ça éveille en lui des sentiments nouveaux, un peu obscurs, et il entre à la basilique des saints Côme et Damien. Connaissez-vous ça, Rome? Ah! Il s'émerveille de l'abside de cette basilique très ancienne. Il est ému. Et cette mosaïque, une des plus parfaites du temps, du triomphe, change sa vue intérieure. Là. Voilà un art spirituel, un art robuste et pur, d'une éloquente simplicité. Un langage d'âme là, qui comprend, qui le retient. Et il va de sanctuaire en sanctuaire à la recherche d'autres œuvres semblables. Et pour la première fois de sa vie, là, la grande question se pose aussi pour lui. Quel est cet homme appelé le Christ? C'est un problème obscur, dont la solution lui paraît plus désirable qu'il ne veut l'admettre. Et il va lire les Évangiles. Et comme l'écrit Thomas Merton, arrivé à Rome, il dit « C'est à Rome que ma conviction fut fondée. C'est là que je le vis d'abord, Dieu, Jésus. Lui que je sers maintenant comme mon Dieu et mon roi, et qui possède et dirige ma vie entière. » C'est bien à Rome que sa conviction fut fondée. Afin de comprendre donc le sens de la mosaïque des saints Côme et Damien de Christ, Thomas Merton achète un Nouveau Testament et le lit avec plaisir. Cela dépasse les poèmes évangéliques de D.H. Lawrence, dont il a fait ses délices déjà. Ce n'est plus seulement l'intérêt artistique qui l'attire dans les églises, mais une sorte de paix intérieure. Il aime Saint-Pierre aux liens, Sainte-Pudentienne, Sainte-Praxède, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean-de-Latran. Ah, le Latran, la grande église, la mère église. Dans cette attitude d'âme, il a un soir le sentiment très vif de la présence presque physique de son père. En même temps, une lumière sur sa misérable situation morale le pénètre. Il écrit « Je pense que pour la première fois de ma vie, je priais réellement, non par les lèvres, l'intelligence ou l'imagination, mais du fond même de ma vie et de mon être. Mais je demandais à Dieu, que je n'avais jamais connu, de m'arracher aux mille liens de mon esclavage. » Alors le lendemain de cette expérience, il monte à Sainte-Sabine, l'âme pénétrée de contrition, et avec l'intention délibérée de s'agenouiller pour adorer Dieu. Avant ça, il n'a jamais plié les genoux dans un sanctuaire, non. Cette fois, il entre, il prend de l'eau bénite, il marche droit à l'autel, il s'agenouille. Il dit le Notre Père, avec la foi naissante qu'il sent en lui. Puis en sortant, il a le sentiment d'une renaissance, et c'est très beau quand il raconte ça, c'est une des plus belles pages de ses livres. Je crois que c'est aux pages 88-89 de La nuit privée d'étoiles. Et puis, une chose que les catholiques, dit-il, ne comprennent pas, c'est le terrible embarras qu'éprouvent les convertis à prier en public. Ils ont l'impression qu'on se moque d'eux. Pourquoi ça? Je pense que c'est parce que nous, notre ferveur est tellement petite, nous sommes tellement convenus, que la ferveur des convertis passe pour de la folie ou pour de l'hypocrisie. À leur arrivée en touriste, c'est donc en pèlerin qu'ils quittent Rome pour regagner l'Angleterre, et de retour en Angleterre, Thomas Merton se met à lire en cachette la Bible. Mais il n'y a plus l'humilité de s'agenouiller, sa ferveur religieuse se refroidit puis disparaît, il faut faire attention. Si c'est pas entretenu par les sacrements et par une prière constante, notre foi baisse grandement. Après un dernier passage à Cambridge, Thomas Merton quitte à jamais l'Europe. Et nous sommes à la fin de 1934, Thomas Merton n'a que 20 ans. Dégoûté de lui-même, il est le produit de son temps, de sa société, de sa classe. Il est coupé de toute charité surnaturelle. Il dit, j'étais comme pénétré par l'égoïsme et par l'irresponsabilité du siècle matérialiste dans lequel je vivais. Alors il croit, à ce moment-là, comme ça arrive à bien des jeunes et des moins jeunes, que tous les maux sociaux viennent du capitalisme. Et c'est un peu vrai, le pape s'y attaque souvent, Jean-Paul II, lui qu'on dit être de droite. Et alors il s'inscrit donc comme militant communiste. Mais après 3 mois d'activité, il renonce. Il entre alors à l'université Columbia, à New York, à l'hiver 1935. Il dit « Chose étrange, en assimilant toute chose, j'étais vide de tout. » Quand on assimile toutes sortes de choses, on écoute tout, on veut rien manquer, les nouvelles, les ci, les ça, on se vide de tout. Il dit bien, chose étrange, en assimilant toutes choses, j'étais vide de tout. En dévorant plaisir, j'ai joie. Je ne trouvais que détresse, angoisse et crainte. Et dans cette extrémité de misère et d'humiliation, je fus la proie d'une aventure sentimentale dans laquelle je fus traité, de la manière dont j'en avais traité beaucoup d'autres pendant ces dernières années. Je n'ai pas grand respect pour les femmes. Et ma défaite fut l'occasion de mon salut. Être rejeté, ça fait beaucoup de bien, paraît-il. Et en février 1937, John Merton, Thomas Merton, suit un cours de littérature médiévale française. Et en même temps, il fait l'acquisition de l'ouvrage d'Étienne Gilson, qui est superbe, l'esprit de la philosophie médiévale, dans lequel je me suis plongé dans ma vingtaine, c'était à la base de ma thèse de licence en philosophie. Mais quand il ouvre le livre, il voit qu'il y a un équilibstat et un imprimatur, que ce sont des signes que l'Église approuve le livre. Et ça risque de lui faire rejeter ce livre trop catholique, mais malgré tout, il le lit. Et il écrit à ce sujet, au sujet de L'esprit de la philosophie médiévale d'Étienne Gilson, il dit « Le concept important que je puisais dans ces pages fut de nature à révolutionner ma vie entière. » Contrairement à ce que j'avais pensé jusqu'alors, écoutez bien ça, contrairement à ce que j'avais pensé jusqu'alors, je compris que la foi des catholiques n'était pas une notion vague et superstitieuse issue d'un âge non scientifique. Au contraire, cette foi catholique se révélait tout ensemble profonde, précise, simple et exacte. Alors, rempli d'un immense respect pour la foi et la philosophie catholique, Thomas Merton reconnaît l'urgence d'une conversion et sa vie change de caractère. Et d'autre part, l'Esprit Saint agit en lui par l'action des amis qu'il fréquente à Columbia. Il est bachelier SR, il se spécialise en littérature anglaise du 18e siècle maintenant. En étudiant William Blake, dont les poèmes font l'objet de sa thèse, il acquiert la conscience. Il écrit que la seule manière de vivre est de vivre dans un monde chargé de la présence de Dieu. Mais cependant, la vie de l'âme n'est pas seulement connaissance. Avant tout, elle est amour. Le plus dynamique de ses amis, le petit moine hindou Brahmachari, écoutez bien, lui suggère de lire « L'imitation de Jésus-Christ et les confessions de Saint-Augustin ». Et ça l'aide grandement. Un moine hindou qui lui conseille ça, qui est un de ses amis. Le jeune étudiant s'installe dans un appartement derrière la bibliothèque de l'Université Columbia et commence à lire « L'imitation de Jésus-Christ », à désirer le contact du prêtre finalement. Il dit, j'étais un peu effrayé de me soumettre publiquement au péril mystérieux de cette chose étrange qu'ils appellent leur messe. Oh, je l'avais toujours fui, pris de folle panique protestante. Et voici qu'une voix suave et forte me dit intérieurement, viens à la messe. Viens à la messe. Et Thomas Merton ne résiste plus. Un dimanche doux, il entre dans la petite église en briques. Le Corpus Christi, le corps du Christ. On n'a pas d'église qui s'appelle comme ça ici au Québec, je pense. Corpus Christi. C'est leur façon de parler de la fête Dieu. Façon latine, d'ailleurs. Cette église est cachée derrière le collège des professeurs, sur la 121e rue à New York. Et il écrit, il assiste à la messe, hein, « Quelle révélation de découvrir là tout un peuple coude à coude, plus conscient de Dieu que d'eux-mêmes. » Puis tout le monde se lève, et je ne sais pourquoi. J'apprends plus tard que c'est pour la lecture de l'Évangile. Quelqu'un paraît à Lambon, c'est un jeune prêtre, très détaché de lui-même, ou de l'impression qu'il peut produire. Il prononce un bref sermon. Quel intérêt pour moi d'entendre exposer, en un langage sans prétention, un point de la doctrine catholique. La parole révèle non seulement la rigueur de l'Évangile, mais encore une tradition séculaire, unifiée, continue et constante, et par-dessus tout, c'est une tradition vivante. Rien d'étudié, ni de figé. Que disait ce prêtre? Il parlait du Christ, de sa nature divine et humaine, et de la rédemption en lui, de la nécessité de la grâce. Et ce sermon était ce que j'avais le plus besoin d'entendre ce jour-là. Je découvrais un monde nouveau et je sortis heureux. Il reprend ses livres, Hopkins, Joyce, Crashaw. Il s'enveloppe d'une atmosphère catholique, mais il ne retourne pas à la messe. Et un jour pluvieux de septembre, Thomas Merton lit les lettres à Newman de Hopkins, en voie de conversion. Quand il se sent à nouveau poussé, il entend « Qu'attends-tu? Que fais-tu ici? Tu sais ce que tu dois faire. Pourquoi ne le fais-tu pas? » Et Thomas Merton veut passer outre ses paroles, mais la voix au fond de son cœur se fait plus pressante et s'en est trop. Il sort sous l'appui pour se rendre à Broadway. Tout chante en lui. À l'église de Corpus Christi, il demande le baptême. L'instructeur auquel il est confié, l'abbé Moore, le prédicateur de la messe. Et 6 semaines plus tard, le 16 novembre 1938, Thomas Merton reçoit le baptême. Ses amis sont là, un seul catholique parmi eux, et c'est son parrain. Et il s'écrie, « Credo, 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 je crois, je crois, je crois. » Et il se confesse, il assiste à sa messe, on peut dire, fait sa première communion, il a 23 ans, et la paix est avec lui. Le chemin spirituel, donc, du converti, quand il demeure seul, solitaire, est plein d'ombres et d'embûches. On ne doit jamais abandonner trop tôt à lui-même celui qui veut recevoir le baptême. Privé de direction, eh bien, Thomas Merton connaît l'inquiétude et l'ennui. Il n'a pas la simplicité de questionner son instructeur, d'exprimer son désir de communier tous les jours, de pratiquer l'oraison. Il aurait besoin d'appui spirituel. Et après avoir reçu l'immense grâce du baptême, après toutes les luttes endurées pour y arriver, après le long chemin parcouru à travers tant de no man's land, comme il dit, proche de l'enfer, il ajoute au lieu de devenir un fervent et généreux catholique, j'ai glissé lentement, simplement, dans les rangs de ces milliers de catholiques tièdes et indolents, indifférents, qui luttent à peine pour garder vivant en eux le souffle de la grâce. Alors, il ne prie pas vraiment. Il ne connaît pas vraiment la Sainte Vierge Marie. Puis il écrit, on ne se rend pas compte cependant de l'immense pouvoir de la Vierge Immaculée. Elle n'était pour moi qu'un symbole poétique, ben une statue, un vitrail. Il a toutefois le sens de la vie surnaturelle, alors il pratique la 16, il évite le péché mortel, mais il reprend sa vie accoutumée pendant toute l'année 1939. Il croit être entièrement converti parce que son intelligence l'est. Or, où en est sa volonté? Oui, sa volonté, sa volonté. Ah, Thomas Merton, en septembre 1939, se voit bien plongé dans tous les événements, car tout le monde est préoccupé par ce qui se passe en Europe, la guerre. Septembre 39, oui, septembre passe, et tout à coup, au milieu d'une réunion d'amis, des gens, des gars, des filles, un mouvement profond de la conscience montre clairement à Thomas qu'il deviendra prêtre. Et il leur déclare simplement, « Vous savez, j'entrerai dans un monastère et je deviendrai prêtre. » Vous savez, quand j'avais présenté à la télévision une entrevue avec le père Jean, vous souvenez-vous de ça, le père Jean, un trappiste? Mais il avait fait la même déclaration à ses amis un soir, puis était entré à la trappe le lendemain, puis il est demeuré. Lui, le père Jean, avait fait ça en 24 heures, mais là, ça va être plus long. Alors, les amis de Thomas Merton croient qu'il divague, mais le soir, il prend congé de sa girlfriend, la Peggy, en lui disant, « Ma Peggy, je serai prêtre. » Il est seul, la nuit tombe, et il entre à Saint-François-Xavier, les églises étaient ouvertes beaucoup plus tard, à l'époque, hein, où il n'est jamais allé. Et dans la crypte, on chante le Tantum Ergo, ce beau chant à l'Eucharistie, au Christ dans l'hostie. Je regardais, dit-il, la blanche hostie, et soudain je compris que j'étais à un tournant de la vie, que tout dépendait d'un mot de ma part, que ceci était en quelque sorte ma dernière chance. Je contemplai l'hostie et je compris qui était celui que je regardais. Intérieurement, je lui fis cette prière. Oui, je désire être prêtre. Oui, je désire être prêtre. Si c'est votre volonté, Seigneur, faites que je devienne prêtre. Alors sur ces entrefaites, il est convoqué au bureau de contrôle militaire. L'examen médical le révèle inapte au service armé. Heureusement, hein? Une déficience dentaire, simplement, c'est curieux. C'est ce que déclare le médecin. Il lui dit pas même bon pour être brancardier. Alors, Thomas Merton, a 26 ans, il considère ce refus comme un appel de Dieu, hein? Et la route devient libre vers le silence. Il décide de se consacrer à Dieu. La veille des rameaux, il se rend à la trappe du Kentucky, Gethsemane, pour voir ce qu'il y en est. Il veut voir, avant de décider. Il écrit, « J'arrivais à la trappe comme dans un abîme. » Mais à l'église, pendant que se célèbrent les messes, il s'écrie, « Oh mon Dieu, avec quelle puissance votre choix s'impose à toute créature humaine. » Docile, Thomas Merton va fidèlement à tous les offices qui se célèbrent dans les monastères, dans ce monastère. Et, même s'il n'est pas obligé, Il est à l'hôtellerie. Il écrit ces hommes ensevelis dans l'anonymat de leur coule blanche, accomplissent pour leur pays ce qu'aucun président ni aucun congrès ne peut réaliser. Lui assurer la grâce, la protection et l'amitié de Dieu. Ce texte qui date de bien longtemps s'applique tout à fait aujourd'hui avec ce qui se passe avec le président américain puis le congrès. Oui, ces hommes ensevelis dans l'anonymat de leur coule blanche, ils sont habillés de blanc, les trappistes au cœur, accomplissent pour leur pays ce qu'aucun président ni aucun congrès ne peut réaliser, c'est lui assurer la grâce, la protection et l'amitié de Dieu. Mais lui, Thomas Merton, pauvre homme, il continue à lutter contre lui-même. Il redoute de nouvelles incompréhensions. Il considère ses désirs de vie religieuse comme une immense illusion. C'est sa part dans la passion du Christ en cette semaine sainte. Ses longues heures de prière l'écrasent. Être moine, j'en mourrais. Alors rentre à New York, la lutte intérieure continue. Il entreprend alors un travail social sous la direction d'une femme admirable, la merveilleuse baronne de Uweck Doherty, qui est morte en Ontario, à Cumbermere, qui se dévouait à l'époque corps et âme pour le soulagement des Noirs dans le quartier de Harlem à New York. Et cette expérience et cette action sont réconfortantes pour le nouveau converti, Thomas Merton. Un moment, il croit que son devoir est de partager sa vie entre la littérature, l'enseignement et le travail social, au besoin, avec la baronne de Uweck Doherty. Mais Dieu le veut ailleurs. En octobre 1940, Merton fait la découverte de Sainte Thérèse de Lisieux. Et cette rencontre est merveilleuse. Et il la prie. Montrez-moi ce que je dois faire, petite Thérèse. Si je vais au monastère, je serai votre moine. Et cette fois, cette décision est prise, irrévocable. Comme si quelque chose s'était nettoyé en lui. Et jamais encore il n'a connu un tel calme, une telle paix, une telle certitude. Et Thomas Merton part pour la trappe de Gethsemane, ou Gethsemane. On est en avant. Même période qu'aujourd'hui. Belle période, pour une naissance religieuse. Il dit, j'étais enfermé dans les quatre murs de ma liberté nouvelle. J'étais libre. J'appartenais à Dieu, et non plus à moi-même. Et lui appartenir, c'est être libre. Oui, appartenir à Dieu, c'est être libre. Alors, il faut lire la description que Frère Louis, c'est son nom maintenant en religion, le Frère Louis, qui nous fait de la vie au noviciat, puis de toute la vie cistercienne des trappistes. Ces pages sont émues et brûlantes. Elles ont la force d'un renouveau. On ne se sauve pas seul. Et Frère Louis, Thomas Merton, a la joie de contribuer à la conversion de son frère John Paul, aviateur, qui vient au monastère en juillet 1942. Il y reçoit le baptême, il fait sa première communion, et l'année suivante, moins d'un an plus tard, en avril 43, il sera porté manquant après un raid, et sa mort sera confirmée peu de temps après. À la fête de Saint Thomas, l'apôtre, en 1942, le novice, Thomas Merton, frère Louis, prononce ses premiers vœux de religion. Des joies spéciales lui sont départies. Son ami Bob Lax, converti à son tour et baptisé, vient visiter Thomas Merton, son vieux copain. Il emporte les poèmes de Thomas Merton, 30 poems, qui seront imprimés en 1944. C'est le début de sa carrière d'écrivain, on peut dire. Une scrupule, une inquiétude pour frère Louis, son double d'écrivain, l'aurait-il suivi au monastère? Mais le père abbé apprécie autrement la situation, et les dons de Dieu, dit-il, doivent être employés pour la gloire de Dieu. Il lui dit, votre vocation est d'écrire. Alors les études en vue du sacerdoce continuent, puis en 1949, le grand rêve de Thomas Merton se réalise, il est ordonné prêtre. Oui, il est ordonné prêtre. Et là, il va écrire tant de livres que c'en est bouleversant. Bouleversant. Je vous ai signalé tout à l'heure Les voies de la vraie prière, paru l'an dernier aux éditions du Cerf. On a publié à son sujet Prier 15 jours avec Thomas Merton en 96. Pardon, André Gauzier. J'ai une nouvelle cité. Chez Albin Michel en 95. Mystique et zen, suivi de Journal d'Asie. Toujours de Thomas Merton, c'est un bouquet assez considérable. Oh, il a plus de 500 pages. Mais je voudrais venir au livre majeur. Il y a ce beau livre de Thomas Merton, Le retour au silence. Le retour au silence, c'est très très beau, puis paru en 1975. Il dit, je ne parle pas ici en tant qu'auteur de La nuit privée d'étoiles, que beaucoup de gens ont lu, hein, des millions de gens l'ont lu, mais en tant qu'auteur d'essais et de poèmes plus récents que très peu de gens ont lu. Et c'est un ouvrage sublime à sa façon. J'ai beaucoup apprécié aussi Réflexion d'un spectateur coupable, toujours de Thomas Merton, chez Albin Michel. C'est un livre qui est une suite de notes, d'opinions, puis d'expériences, de réflexions, de méditations spontanées. Il peut parler aussi bien de Karl Barth, du théologien protestant Karl Barth, que des conséquences internationales des armements nucléaires. Mais de la première à la dernière ligne, on voit le sentiment qu'a Thomas Merton de l'importance transcendante de la responsabilité individuelle. Nous sommes tous responsables et c'est à nous de changer avant de dire au monde de changer. Thomas Merton demande donc à l'individu de comprendre la différence entre les voies de Dieu puis celles de Satan. Or, notre société ne peut pas nous apprendre cette différence. Ce problème est le thème central du livre. C'est pas la société qui nous apprend à fuir Satan. Que le Christ vivant en nous. Peu de temps avant sa mort, il avait écrit « Les voies de la vraie prière ». C'est le même livre qui est paru récemment, en 97, qui était paru aux éditions du Cerf et qu'il avait publié à l'époque. Il avait fait sensation. Il a écrit aussi « Vie et sainteté ».« Vie et sainteté » paru en 66, pas longtemps avant sa mort aussi. On y découvre qu'il n'y a pas de différence essentielle entre la sainteté du laïc et celle du moine. Parce que l'action, ça fait partie de la vocation de tout chrétien. Comme sa participation à la mission de l'Église dans le monde, la vocation commune de tous. Et la sainteté dans l'action. Car tous sont invités à répondre oui, continuellement, à l'appel du Christ. Alors il développe ça d'une façon absolument admirable. Puis, il y a aussi, je vous ai dit au début de l'émission, Semence de contemplation, mais il y a aussi Semence de destruction, paru en anglais en 64, en français en 65. Et c'est pas long à lire, c'est bien fait. Ce sont, comme mettons, une lettre à James Baldwin, une lettre à un intellectuel, les chrétiens, hommes de paix. C'est très bien fait, mais si vous voulez voir ce qu'est la paix monastique, lisez l'ouvrage de Thomas Merton, La paix monastique, paru chez Albin Michel, parce que à l'entrée des monastères, c'est toujours écrit paix, pax, pax, pax. Et dans ce petit livre, avec la simplicité et la clarté qui lui sont propres, Thomas Merton ne se contente pas de définir la paix monastique, ni de nous offrir des méditations plus ou moins consolantes et un peu niaises parfois. Il étudie, lui, la paix sous les angles les plus divers, celle du chrétien dans le monde, celle du moine, celle qui résulte de la charité, de la pauvreté, de la véritable liberté, celle qui demeure au milieu des souffrances. Et il y a quelques livres aussi qu'il faut absolument lire, c'est « Aux sources du silence », un livre majeur. Il y a des livres parus sur lui, beaucoup d'autres livres dont je ne peux pas vous parler, enfin je les ai ici, mais on peut pas tout mentionner. Il y a Gilles Farset, que j'avais déjà interviewé, un jeune à Rencontre à la télévision, qui a écrit Thomas Merton, un trappiste face à l'Orient. C'est paru en 90 chez Albin Michel avec une préface de Marie-Madeleine Davy. Curieuse préface comme j'en ai rarement lu, où elle fait elle porte des corrections à l'ouvrage, mais c'est un ouvrage excellent, elle le vante beaucoup. Il y a aussi de James Finley en anglais, Merton's Palace of Nowhere, a search for God through awareness of the true self. Mais celui qui est le meilleur livre, malheureusement en anglais, j'ignore s'il est traduit en français, c'est Thomas Merton's Dark Path, The Inner Experience of a Contemplative, l'expérience intérieure d'un contemplatif. Son chemin difficile à Thomas Merton. Thomas Merton's Dark Path, par William Shannon. William Shannon, c'est un prêtre qui s'est spécialisé sur Thomas Merton, qui a écrit des choses absolument admirables. Il enseigne les sciences religieuses au Collège Nazareth à Rochester, New York. Et il est directeur d'une société à Rochester, la Thomas Merton Society. C'est un ouvrage que je vous recommande si vous pouvez mettre la main dessus. C'est paru chez Farrer, Straus, Giroux à New York. Quand Thomas Merton est allé en Orient, quelque temps avant sa mort, il s'est retiré pour 4 jours dans un lieu écarté dans les Himalayas. De sa fenêtre, il avait eu loisir de contempler le mont Kanchenjunga, qui exerçait sur lui une étrange fascination. Et là, dans cette solitude, qui lui était essentielle, il adorait la solitude, il a fait un rêve curieux à propos de la montagne. Il dit, « Je regardais la montagne, elle était d'un blanc pur, immaculé. » Et j'entendis une voix qui disait, « Il y a l'autre côté de la montagne. » Il a continué ensuite son périple asiatique en passant par Darjeeling, puis par Calcutta, Madras. Mais c'est au sanctuaire de Polonnaruwa, dans Sri Lanka, 8 jours avant sa mort, qu'il lui semble toucher au but face aux immenses Bouddhas taillés dans la pierre. Vous connaissez peut-être d'immenses Bouddhas. Et contrairement à son habitude, s'empresse pas de confier cette expérience à son journal, non. Il attend 2 jours pour tenter de l'exprimer par écrit. Non sans quelque réticence. Le fait qu'il ait employé le présent, temps de l'intemporel, pour tenter de décrire ce moment, n'est pas indifférent. Il écrit, je peux approcher les Bouddhas, puis il écrit 2 jours après, comme vous voyez. Je peux approcher les Bouddhas pieds nus, sans être dérangé. Les pieds dans l'herbe et le sable mouillé. Alors vient le silence de ces extraordinaires visages, ces grands sourires gigantesques et cependant subtils, emplis de toutes les possibilités, exempts de doute, omniscients, ne rejetant rien. Il ne s'agit pas d'une paix issue d'une résignation émotionnelle, mais de Madhyamika, de Sunyata, une paix qui a traversé toutes les interrogations sans essayer de discréditer quiconque ou quoi que ce soit, sans réfutation, sans établir d'arguments opposés. Contemplant ces figures, je me suis soudain trouvé, presque malgré moi, projeté hors de la vision habituelle et limitée des choses. Et, écoutez bien, une clarté intérieure s'est manifestée, évidente, comme projetée par une explosion des rochers mêmes. Tous les problèmes sont résolus et tout est clair, simplement parce que ce qui importe est clair. Le rocher, toute matière, toute vie sont chargés de dharmakaya. Tout est vacuité et tout est compassion. Il est certain qu'avec Mahabalipuram et Polonnaruwa, mon pèlerinage asiatique s'est purifié et est devenu clair. Je sais. Et j'ai vu ce qu'obscurément je recherchais. Je ne sais ce qui me reste à trouver, mais à présent, j'ai vu, à travers la surface, au-delà de l'ombre et du masque. Alors, il se rend ensuite à Bangkok pour la conférence de l'Association internationale des monastères. Ou de l'Association des monastères d'Asie. Il y arrive le 7 décembre. Et il s'électrocute, sans le vouloir, évidemment. Le 11 décembre, les moines et les religieux venus du monde entier chantent son requiem. Et par une curieuse ironie du destin, c'est un bombardier de l'armée américaine qui ramène aux États-Unis le corps de cet apôtre de la non-violence. Une croix parmi bien d'autres marque sous les cèdres, l'emplacement de sa tombe. Dans le cimetière des moines, au Kentucky, à la trappe de Gethsemane. Ainsi que l'a souligné l'un de ses biographes, Anthony Padovano. Merton s'impose comme l'un des symboles de son siècle, c'est un personnage riche et complexe. Il est parvenu à incarner et à unifier en une seule personne maintes tendances apparemment contradictoires de l'homme contemporain à la recherche de lui-même et d'une vie plus authentique. C'est un moine cistercien, de la stricte observance, écrivain célèbre, un chantre de la solitude, puis en même temps, un personnage public. Il est précurseur de l'écuménisme et de Vatican II, puis fervent avocat des pères du désert et de la tradition de l'Église catholique. Esprit engagé dans les luttes de son temps et auteur d'ouvrages marquants sur la contemplation. Il est par excellence, on pourrait dire, l'homme du paradoxe. Il y a un grand mouvement qui s'est dessiné après lui, hein, par un détour symptomatique de l'Occident confiné dans une culture usée, mais Thomas Merton est passé, chose étrange, par la voie du Tao pour aboutir au plein amour. Il a eu des contacts très importants avec des orientaux. C'est Don Jean Leclerc, dans sa préface à ce beau livre « Le retour au silence » publié chez Desclée de Brouwer en 1975, qui écrit au tout début « Il souhaitait voir apparaître dans les monastères de son pays des hommes capables, écoutez bien, de développer dans leurs âmes cette semence qu'est la parole de Dieu et porter du fruit dans le domaine de la théologie spirituelle. » Il n'a jamais cessé de travailler en ce sens. C'est pour ça qu'il s'occupait de l'union des monastères d'Asie. La création d'un monachisme asiatique chrétien en Asie, c'était pour lui extrêmement important. Il a souhaité un renouveau spirituel et institutionnel dont il savait qu'il rencontrerait des résistances. Il a fini par accepter sa propre vie en ermitage. Il est devenu ermite. Avant de mourir, il a pu voir son ancien abbé s'y opposer un peu, devenir ermite lui aussi. Et il a vu sa communauté élire pour lui succéder comme maître des novices, un ancien novice qu'il avait formé lui-même et qui vivait comme lui en ermitage non loin du monastère. Il a écrit avec son sang, on peut dire. Il a souffert pour la vérité de son message. Il excellait à donner au lecteur l'impression d'être son ami, son intime, et d'être proche de lui et même d'être lui, on peut dire. C'était là tout le secret de son influence. Il avait un amour pour les pères du désert, les pères grecs et leur vocabulaire pour Saint-Clément, pour Cassien, puis Moyen-Âge, pour tant d'auteurs fantastiques. Ah, très tôt dans sa correspondance, a apparu le problème de l'érémitisme. Il s'y est donné. Un jour, on pourra analyser tout ça. Et on verra jusqu'à quel point il s'est exprimé sur des sujets fort différents. En allant de l'art à la politique, en passant par tous les domaines de la vie religieuse, mais au centre et au cœur de tout ce qu'il disait, il y avait sa vocation, son expérience de moine. Il considérait tout d'un point de vue de moine. C'était là en même temps sa limite et sa force. Il avait un amour pour Jésus-Christ, pour la parole vivante de celui qui s'est identifié à notre condition, pour la transformer. Les livres à retenir, la nuit privée d'étoiles, semences de contemplation, ou sources du silence, tant d'autres. Je pourrais vous les renommer encore. Il dit, au début de la nuit privée d'étoiles, « Depuis le temps où je l'ai écrit, j'ai appris, je crois, à regarder le monde avec plus de compassion. » Il y a des légendes qui ont circulé autour de lui, mais ce sont des faussetés. Les gens l'ont attaqué parce qu'il était trop noble, trop grand. Il est toujours amené au même centre, au même amour, à ce Dieu qu'il a rencontré en Jésus-Christ par le don de l'Esprit. Son œuvre est basée là-dessus. Il a travaillé de nos jours à cette évangélisation du monde qui consiste moins à convertir des individus qu'à christianiser des cultures. Il faut christianiser notre culture québécoise. Il ne faut pas retirer la religion des écoles comme on le projette. Au contraire, il faut faire revivre cet enseignement catholique dans nos écoles. Ces popes, ce prêtre, s'occupe des itinérants, qui dit que ce serait une catastrophe que de retirer l'enseignement religieux à ces jeunes, qu'on conduit au suicide dans le désert, le néant, l'absence de Dieu. Retournons-nous vers les ouvrages de Thomas Merton et apprenons ce que c'est que de vivre en chrétien.